Vous écoutez
RMC. 16h, 18h, RMC spécial équipe de France.
Benoît Boutron.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'intégral foot spécial équipe de France et surtout un joyeux Noël à vous tous. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h et j'ai réuni à mes côtés la Dream Team RMC Sport. Évidemment, à commencer par coach Courbis et capitaine Larquet. Salut messieurs.
Salut les amis.
Bonjour à tous.
Merci d'être là, 25 décembre, pour ces deux heures consacrées à l'équipe de France. On accueille également Jeannot Rességuier, la voix de l'équipe de France. Salut Jeannot.
Bonjour tout le monde.
Et Loïc Tanzi, l'homme qui sait tout. Salut Loïc.
Salut à tous.
Tu sais toujours tout, c'est bon?
Toujours tout. Pas un peu moins le 25 quand même.
Alors, tu as tout su, mais est-ce que tu sauras tout pour le Qatar? C'est ça la question.
Ah oui, on a un peu de temps quand même encore.
Bon, on espère que tu auras des réponses à nous donner.
Laisse-nous savourer la dinde déjà, après on verra.
Exactement. Ce jour de Noël, on a décidé de consacrer deux heures à nos bleus jusqu'à 17h. On va revenir sur cette année 2021 marquée par l'élimination en huitième de finale de l'Euro et par la victoire en Ligue des Nations. Et puis dans la deuxième heure, on va se projeter vers la Coupe du Monde au Qatar prévue dans moins d'un an. Débat autour du schéma tactique, du trio offensif Benzema, Mbappé, Griezmann ou encore des potentiels candidats pour le Mondial. Mais démarrons par l'année contrastée que nous venons de traverser.
Kylian Mbappé, il est sifflé du stade de Bucarest. C'est pas très malin. Kylian Mbappé face à Sommer. Kylian Mbappé, arrêt de Sommer. C'est un cauchemar pour Mbappé. C'est un cauchemar pour l'équipe de France qui est éliminée de l'Euro 2020 en huitième de finale. C'est fini, c'est terminé. Trois jours après la renversante victoire de l'équipe de France face à la Belgique en demi-finale, l'équipe de France a une nouvelle fois été extraordinairement renversante, vainqueur de la Ligue des Nations face à l'Espagne. C'est terminé, cette fois-ci c'est la bonne, c'est terminé, ici au Parc des Princes, le sourire de Didier Deschamps, le sourire de Guy Stéphan, le staff de l'équipe de France peut être satisfait du parcours des Bleus à une journée de la fin des éliminatoires et d'un déplacement en Finlande, Helsinki mardi. La France est qualifiée pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, au Parc des Princes, sur le score de 8-0.
Et voilà le grand Jeannot, ça fait beaucoup de c'est terminé, mais beaucoup de choses se sont terminées effectivement. Ouais. Donc il y a eu beaucoup d'événements à relater dans cette
pourtant,
première heure.
Ouais, rien n'est jamais terminé.
Ouais, c'est vrai. C'est un éternel recommencement.
C'est terrible parce que moi, sur le match de la Suisse, je commente avec Jeannot, je suis en derrière un but.
Et tu te fais crier dessus.
Et non, même pas. Sur toute la séance de tir au but, je ne parle plus parce que je peux plus parler. Je suis tétanisé par l'enjeu du match et par le penalty de Mbappé. Et je dis à Jeannot, j'envoie un texto à Jeannot, finis tout seul parce que moi, je peux plus finir.
Ah ouais, bouffé par le stress.
Bouffé par,
Okay. Heureusement que tu tires pas les pénalties.
Ouais, c'est vrai, mais presque. Je pense qu'il y a plus de stress qu'eux.
Alors, messieurs, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. C'était l'événement de l'année, cet Euro 2020 disputé, évidemment, à l'été 2021. Revenons au mardi 18 mai. Il est 20h et Didier Deschamps annonce les 26 bleus sélectionnés pour disputer la compétition.
Attaquant, Wissam Ben Yedder, Karim Benzema, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Marcus Thuram.
Et là, c'est la surprise, effectivement, après 5 ans et demi d'absence, 5 ans et demi après sa dernière sélection en bleu, Karim Benzema est rappelé par le sélectionneur Didier Deschamps sans avoir disputé les matchs préalables. Il revient pour la compétition, il y aura deux matchs amicaux qui vont lui permettre de se mettre en jambes.
Et se blesse d'ailleurs.
Une véritable surprise, Loïc Tanzi. Rappelons le contexte, même vous, suiveur de l'équipe de France, avant ce 18 mai, vous aviez très peu d'infos qui avaient filtré comme quoi un retour de Benzema était possible.
Ça sort la veille au soir chez nos confrères du Parisien et le matin même chez nos confrères de l'équipe. Donc c'est une vraie surprise pour tout le monde. Le secret a été très bien gardé. Maintenant, on en sait un peu plus après, avec un peu de recul sur le pourquoi du comment, avec cette rencontre entre Deschamps et Benzema. A priori, après le mois de mars, et on sait que le rassemblement de mars, l'élément a été un peu l'élément déclencheur chez Deschamps, quand il a vu que son système offensif ne fonctionnait pas comme il le souhaitait. Il avait alerté ses joueurs, notamment à la mi-temps, on en a longuement parlé avec Jeannot, à la mi-temps du match face à la Bosnie au mois de mars, en disant à ses joueurs, si vous continuez comme ça, il y aura du changement. Et il a mis ses menaces à exécution en rappelant Karim Benzema ensuite.
Jeannot, vous l'avez titillé chez Jérôme Rotten au début du mois de décembre. On ne sait toujours pas qui a provoqué le rendez-vous.
Non, il ne veut rien dire là-dessus. Alors après, on est peut-être, nous tous, hein, observateurs, suiveurs, plus dans le fantasme qu'autre chose. On avait évoqué le fait qu'il se soit vu en début d'année, donc avant le rassemblement de mars. Et puis on se rend compte que finalement, apparemment, non. Mais... J'ai le plus le sentiment, comme l'a dit Loïc, que c'est Didier Deschamps qui avait envie de voir Karim Benzema, de l'entendre et de crever définitivement l'abcès. Mais 5 ans après, c'est vrai qu'on lui a posé la question dans Rotten sans flamme, il a pas voulu évoquer le sujet parce que je pense que en son fond intérieur, il a pas envie d'aller plus loin. Il a pas envie de donner d'explications.
Ouais, bien sûr.
Pour lui, c'était
Benzema
sa décision.
Non plus, d'ailleurs.
Et Karim Benzema, je pense que lui, à la limite, aurait plus envie d'en parler, mais a compris que Didier Deschamps ne voulait pas qu'on en parle.
Possible. Alors, ce qui m'intéresse, Roland et Jean-Michel, c'est qu'aujourd'hui, on a du recul. Effectivement, on est plus de 6 mois après la compétition. On peut analyser cet événement, donc, avec froideur. Est-ce que vous pensez que ça a porté préjudice aux Bleus sur cette préparation? Le rappel de Benzema, tout évidemment l'emballage médiatique que ça a suscité, est-ce que vous pensez que ça a été malheureusement mal vécu par cette équipe de France?
Disons que bon, capitaine, je suis désolé de parler avant toi, mais pour moi c'est une évidence, dans le sens que déjà, au lieu de chercher qui a appelé l'autre, ben moi je procède par élimination. Je m'imagine pas un seul instant Benzema appeler Deschamps 5 ans et demi
en lui disant bon tu m'appelles cette fois,
voilà, donc ouais. Pour lui demander donc je pense que c'est Didier Deschamps. Et pourquoi c'est Didier Deschamps? Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe et que l'Euro approche, Benzema est de meilleur. En meilleur et de mieux en mieux dans ses performances. Et comme Giroud, c'est tout le contraire. Comme Mbappé, on s'aperçoit que c'est pas un véritable numéro 9. Ben Didier Deschamps, c'est humain, on va pas lui jeter la pierre là-dessus. Il se dit, je vais me faire casser en deux si ça marche pas. Donc la connerie, pour moi, elle est faite parce qu'il y a du retard. Et évidemment que si la décision avait pu être prise au mois de mars, où il y a 2 ou 3, même, je crois, matchs de...
Il y avait combien de matchs en mars, les gars, Jeannot et Loïc, vous vous souvenez?
3. Deux en déplacement, en Kazakhstan, en Bosnie et en France.
Ça aurait été plus simple de l'intégrer à cette équipe.
Mais là, déjà, ça foutait pas le bordel que ça a foutu. Et ce problème-là, je dirais pas avec certitude, mais il est fort possible que ça a été le début de l'élimination.
Parce que Roland, lui, doit le gérer personnellement, Karim Benzema. Didier Deschamps doit l'assumer. Et les autres doivent le digérer. Captain, comment tu l'analyses, toi, ça?
Vous me ferez la gentillesse de reprendre ce que j'ai dit, ce que j'avais dit, peut-être un an avant ce retour. J'avais simplement dit, gentiment, sans prétention, mais parce que je pense que c'est le lot de toute réconciliation, que c'est ainsi que va la vie. J'avais demandé à Didier Deschamps d'oublier, de pardonner, et peut-être que ce cheminement était déjà dans la tête de Didier Deschamps. Qu'il l'ait réalisé trop tard, je pense que c'est trop tard. Qu'est-ce que ça aurait changé, 4 ans de purgatoire ou 5 ans par rapport à 5 ans de purgatoire?
Donc pour toi, si je comprends, capitaine, donc pour toi aussi, c'est une erreur de l'avoir appelé si tardivement.
Moi, ça ne m'énerve pas. Je dis simplement que.
Excusez-moi, capitaine, s'il y a une autre solution que Benzema, et si Benzema n'est pas tout simplement en train de marcher sur l'eau, il ne revient jamais.
Évidemment.
Point final, c'est tout.
Et peut-être que si l'euro est en 2020, il revient pas du tout.
Absolument.
Complètement.
Et je trouve malheureusement que ce soit les événements. Et je suis d'accord avec vous. C'est la baisse des performances de Giroud, qui était dans une situation très 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 compliquée, mais sauvé par les buts qu'il marquait. Il était sauvé. Il était sauvé par les buts qu'il marquait plus que par son travail sur le terrain. Et donc, à un moment ou à un autre, il s'est aperçu quand même qu'il ne pourrait pas je dirais, jouer dans la cour des grands s'il n'avait pas une alternative à Olivier Giroud.
C'est l'autre événement de cette préparation de l'équipe de France en vue de l'Euro, effectivement, c'est cette embrouille Giroud-Mbappé. Je vous restitue le contexte. Giroud, on le rappelle, c'est le grand perdant du retour de Benzema. Il est passé de titulaire à remplaçant du bout du banc, hein, vraiment un joueur très peu utilisé ensuite. C'est l'autre moment fort, on le disait, l'embrouille entre les deux. Après France-Bulgarie, c'était le deuxième match de préparation. Giroud, qui n'avait pas joué une minute contre le Pays de Galles, entre à la 41e parce que Benzema se blesse. Il a une alerte musculaire, donc on préserve Benzema. Giroud signe un doublé, mais signe également cette déclaration après le match. Écoutez.
Des fois, on fait des courses, mais les ballons n'arrivent pas, j'ai envie de dire. Après, je prétends pas toujours faire les bons appels, mais je me suis évertué à donner des solutions dans la surface. Vous dites qu'on m'a pas beaucoup vu au début, mais c'est parce que peut-être qu'on aurait pu mieux se trouver.
Pour vous, c'est quoi là? C'est un ensemble de choses. C'est voilà, c'est la frustration qui ressort.
Là, c'est la marmite qui explose. Ouais, c'est clair. Ouais. En plus, il rentre avec le fait de marquer ce doublé, de continuer à marquer des buts, comme le disait capitaine Larquet, qui sauve quelque part l'existence de Giroud encore au sein de l'équipe de France, avec quasiment pas de temps de jeu avec Chelsea, et toujours pas autant de temps de jeu avec son nouveau club, l'AC Milan. Donc, ouais, il a envie de faire passer le message. Peut-être que la question l'amène à cette réponse un petit peu mal maîtrisée, j'ai envie de dire,
s'il le dit,
de la part de Giroud.
Aussi,
mais s'il le dit, c'est que, et c'est quelqu'un de très clair, d'honnête, qui avait envie de parler, qui avait envie de s'exprimer.
Alors, ce qu'on sait, c'est que ça rend fou Kylian Mbappé, d'ailleurs, qui a envie tout de suite d'aller en conférence de presse s'expliquer, qui comprend pas la déclat d'Olivier Giroud. Parce
mais il est à deux doigts d'aller dans la zone mixte, c'est-à-dire qu'il est plus très loin. Exactement. Il est retenu par Deschamps, il est retenu par le chef.
Et d'ailleurs, la conférence de presse, c'est deux jours après quand même.
Exactement, et d'ailleurs, il l'a avoué ensuite début octobre dans l'émission de Jérôme Rotten dans Rotten sans flamme.
Cette histoire, c'était plus vraiment. Moi, j'ai été déçu, mais je pense qu'on l'a traîné vraiment longtemps. Moi, j'ai été déçu deux jours, la vérité.
D'accord.
J'avais la rage le soir. Ouais, c'est vrai, je suis honnête avec toi, j'avais la rage le soir. Tu vois, c'était plus, comme j'avais dit, c'était plus le truc, moi je viens de féliciter, tu marques deux buts.
Et tu me dis rien.
Tu me dis rien et tu vois, c'était plus ça, mais au bout de deux jours, c'était terminé. J'ai parlé avec lui, on a discuté, on est des grands garçons.
Ouais, bien sûr.
Et maintenant, je lui en tiens même pas rigueur.
Et Giroud va lui parler dès le lendemain. Dès le lendemain, Giroud va dans la chambre de Kylian. Va lui parler en lui disant voilà ce que j'ai voulu dire.
Il fallait éteindre l'incendie rapidement.
Sauf que Mbappé fait comprendre que ça dure deux jours.
Mbappé dans la foulée, Giroud va le voir le matin. Derrière, il y a un entraînement en fin d'après-midi à Clairefontaine. Il fait la gueule, Mbappé, pendant tout l'entraînement. C'est-à-dire qu'il dit quasiment pas un mot à ses coéquipiers. Il joue, il parle d'entraînement. Dès que le Deschamps dit c'est fini, il s'en va. Il fait la gueule et il faut vraiment le lendemain encore pour que Mbappé commence à s'ouvrir un peu plus à ses coéquipiers.
Oui, mais je crois que vous ne mesurez pas ce que ce peut ressentir un joueur qui est déjà en difficulté dans son club et qui a pour bouffée d'oxygène, pour ballon d'oxygène, pour bouer l'équipe de France et qui, lorsqu'il vient en équipe de France, marque des buts, et bien qu'il marque des buts en étant attaquant, se fait sans doute critiquer de façon tout à fait injuste. Je reprenais un petit peu les papiers et les avis sur Giroud à l'occasion de ces rencontres. Qui a trouvé Giroud bon une fois? Jamais.
Dans l'ensemble de la presse française?
Ah oui. C'est quelqu'un qui n'a pas été épargné. C'est le moyen que l'on puisse
aider. Mais la presse française est unanime à reconnaître son efficacité, malgré tout.
Ce qu'il a toujours sauvé,
c'est son utilité.
Bien sûr.
Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que il est amer. Il sait qu'il est en train de perdre sa place, que le peu de crédit qu'il avait.
Ah, tu parles de Giroud, capitaine.
Ouais. Je parle de Giroud.
Et qu'il est capitaine dans une liste de 26 élargie. Si on n'est pas en période Covid et qu'on est sur une liste de 23, moi je me pose la question de savoir s'il est vraiment dans la liste avec le retour de Benzema.
Et les gars, à un moment donné, il se dit ça y est, je suis borduré. Mais moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que dans cette déclaration, à moins qu'elle soit sortie de son contexte et qu'il y ait d'autres phrases, à aucun moment il ne parle de Mbappé.
Oui, mais c'est lui qui est sans viser parce que c'est Mbappé qui a joué à côté de lui contre la Bulgarie.
Ah oui, attendez les gars. Moi, je veux bien. Mais regardez dans les datas des matchs, les joueurs qui se trouvent le moins entre eux sont les deux attaquants de pointe.
C'est vrai. Mbappé et Giroud.
C'est-à-dire que entre Mbappé et Benzema, on dit que ça marche formidablement bien. Je peux vous dire que celui qui donne le plus de ballons à Benzema, c'est pas Mbappé. Celui qui donne le plus de ballons à Mbappé, c'est pas Benzema dans un match. Alors, pourquoi se sentir visé?
Roland, ce qu'on peut dire, c'est que une affaire comme celle-là, tu la traînes plusieurs jours jusqu'au début de la compète, ça c'est sûr.
Disons que là, on était en train de parler de l'éventualité de la maladresse de prendre Benzema trop tard. Ben, on en a la démonstration. Et en plus de ça, bon, moi ça me fait plaisir parce que ça nous rajeunit un peu. Nous avions les débats à une certaine époque quand Mbappé n'était pas encore dans le circuit. De Benzema et de Giroud. Qui de Benzema et Giroud? Et moi, j'insistais pour le fait qu'ils pouvaient très bien jouer ensemble je n'avais jamais vu d'autres attaquants aussi complémentaires que Benzema et Giroud. Et une fois, par hasard, ça a été, ils ont été ensemble. Ils ont marqué que 5 buts, c'était contre la Suisse. Ça a été renouvelé une demi-fois et après, ça a été complètement abandonné. C'est pour ça qu'on a toujours la possibilité de discuter.
L'intégral foot spécial équipe de France va se poursuivre dans un instant. On va se lancer dans la compétition, cet Euro 2020. On attaque la phase de poule. On revient sur la victoire contre l'Allemagne et les deux nuls contre la Hongrie et le Portugal. À tout de suite sur RMC.
16h, 18h, RMC spécial équipe de France.
Benoît Boutron.
L'intégral foot spécial équipe de France, joyeux Noël à vous tous qui nous écoutez. Faites attention si vous êtes sur la route du retour chez vous et on espère que vous avez bien profité de votre famille. Jean-Michel Larquet est là, tout comme coach Courbis, Jean-Noré Séguier, Loïc Tanzi qui est un peu guiré en 25 décembre. Ah, t'as bien fêté ça apparemment.
Ah oui, complètement. Beaucoup de foie gras.
Voilà, on revient sur l'année 2021 des Bleus. Dans un quart d'heure, on va se remémorer un moment douloureux, il faut passer par là. L'élimination en 8e contre la Suisse. Mais on démarre tout de suite par la phase de poule et cette victoire face à l'Allemagne à Munich le 15 juin dernier.
Benzema pour Pogba, l'appel de Mbappé dans l'axe, il est tout seul, non, il renverse le jeu, complètement opposé, c'est bien fait, la frappe de Lucas, le but, le but, le but d'Hummels, oui, d'Hummels, 1-0 pour l'équipe de France, Hummels contre son camp. L'arbitre va siffler, c'est fini, cette fois-ci c'est la bonne, c'est terminé, très bien terminé, 8 minutes de temps additionnel, la France n'a pas craqué.
Alors c'est jamais facile de se souvenir de tous les matchs, notamment quand on en commente 1000 par an. Jeannot, quel souvenir tu gardes de ce match à Munich? Quand même une victoire référence des Bleus.
Oui, mais enfin qu'on a serré les fesses toute la partie et qu'on s'est retrouvé avec une équipe de France qui s'est imposée grâce à un but contre son camp de Hummels. Ils n'étaient pas dans la maîtrise. Alors ils n'étaient pas non plus dans le cauchemar de la demi-finale de l'Euro 2016 où ils se qualifient.
Deux buts refusés pour nous. Hein,
oui, oui, mais c'est une équipe de France, on va dire, solide. Et j'ai envie de rajouter chirurgical, puisque à la sortie, elle s'impose et elle prend les 3 points sur ce fameux match d'ouverture pour les Bleus, qui est toujours un match pour Didier Deschamps, référence. Mais l'équipe de France, sur ce match-là, n'a quand même pas été dans la maîtrise du début jusqu'à la fin.
Alors, rappelons le contexte, on partait dans ce fameux groupe de la mort avec l'Allemagne et le Portugal, avec un tirage compliqué parce qu'on devait jouer l'Allemagne en Allemagne, ensuite la Hongrie en Hongrie, et une finale contre le Portugal. Donc démarré par une victoire. Dans le groupe, Loïc, j'imagine qu'à ce moment-là, ça a été un sacré soulagement.
Oui, moi je me souviens quand même être sorti du match où on se disait quand même qu'on avait retrouvé l'équipe de France et la solidité de l'équipe de France à ce moment-là et la fameuse équipe de France de 2018 qui défendait très bien, qui est très dur à bouger avant d'attaquer.
C'est pour ça que j'ai employé le terme chirurgical.
Avec des individualités comme celle de Kylian Mbappé. Donc je me souviens quand même qu'on sort vraiment de ce match avec le torse bombé en se disant voilà, on a retrouvé notre équipe de France et cette équipe de France là, elle va aller au bout et elle va remporter l'Euro. Pour tout le staff de l'équipe de France, c'était un très bon match.
Capitaine, quel souvenir tu gardes de ce France-Allemagne ?
Match solide face à une équipe d'Allemagne que l'on avait vue parfois et très souvent plus brillante que celle que l'on avait affrontée ce jour-là. L'avantage, c'est que tu gagnes chez l'adversaire et que finalement, tu n'es pas en grand danger. Mais je rejoins totalement ce que dit Loïc, c'est-à-dire que tu retrouves une équipe de France qui ne prend pas de but contre une grande nation. Or, on va le voir. Cette équipe de France, aujourd'hui comme hier, c'est une équipe de France qui malheureusement prend des buts, prend beaucoup de buts, y compris en 2018, on en a pris beaucoup, on en a pris contre l'Argentine, on en a pris contre la Croatie, on a pris beaucoup de buts. Et je pense que c'était là, on est satisfait du match. On est surtout satisfait de ne pas avoir pris de but.
Évidemment. Et Roland, toi, tu gardes à peu près le même souvenir. Je me rappelle, ça t'avait marqué cette passe de Pogba. Certains pensaient qu'elle était volontaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce but avec une ouverture sublime. Toi, tu pensais que c'était un geste raté.
Non, mais je pense que c'est une ouverture pour Mbappé qui n'est pas tout à fait en direction d'Mbappé. Et ça va sur Hernandez. Et je l'ai revu 10 fois. Et je change pas d'avis, même si je peux me tromper, ben tout le monde peut se tromper, mais je change pas d'avis.
Alors, pour resituer la compo française pour ce match contre l'Allemagne, Lloris dans les buts, défense à 4, Pavard, Varane, Kimpembe, Lucas. Milieu de terrain à 3, si on peut dire, avec Rabiot, piston droit, relayeur droit, Pogba, relayeur gauche et Kanté en sentinelle. Et puis les 3 attaquants, Griezmann en 10, Mbappé et Benzema. La compo pour ce match contre l'Allemagne.
Il faut comprendre que dès le début de la préparation, l'obsession de Deschamps, c'est de trouver un système qui permettent à Griezmann, Mbappé et Benzema d'être dans l'axe.
Dès la préparation.
Il veut les 3 joueurs dans l'axe. C'est pour ça d'ailleurs qu'on joue aujourd'hui en 3-5-2, parce qu'il y a Griezmann, Mbappé et Benzema dans l'axe. Il veut, c'est son obsession, que les 3 joueurs jouent dans l'axe et pas qu'il y ait un Mbappé et un Griezmann sur un côté et que Benzema dans l'axe.
Je vous recontextualise donc juste les choses. On était dans le groupe F, c'était la première journée. Après ce premier match, on est deuxième du groupe parce que le Portugal écrase la Hongrie. D'ailleurs, un score flatteur, 3-0, alors que c'était pas du tout la physionomie de ce match. Et donc, quelques jours plus tard.
Dans les dernières minutes de la rencontre.
Exactement. Le 19 juin, Jeannot, tu étais en chemisette, mais tu transpirais, évidemment. Comme Loïc Tanzi à Budapest, la fournaise.
Moi, j'étais à cagnard. Lui, il était à l'ombre, en tribune. Moi, j'étais en bord terrain, plein cagnard.
Match à 15h, score final.
Oh, pauvre Loïc, c'est terrible.
Ah, c'est terrible, la vie de journaliste.
Ça et les pénalties, j'ai vécu un bel euro.
Le pauvre. Des conditions atroces pour Loïc Tanzi.
Tétanisé.
À Budapest, en plus. Oh là là.
On fait un partout.
Budapest, insolation.
Oui, on réagit, puisque c'est Griezmann qui égalise.
On est mené au score avant la mi-temps.
On se fait bien bouger.
Ouais.
On se fait bien marcher dessus, dans une ambiance totalement incroyable. Mettez-vous dans le contexte que on sort d'une saison quasiment de huis clos, se passe dans les stades quasiment rien, des jauges réduites parfois. Et là, on se prend un stade acquis à la cause de la Hongrie, une équipe de France qui se fait secouer. Alors oui, il faisait très chaud. Oui, on peut parler de ce contexte du match, mais voilà, l'équipe de France réagit et montre déjà que elle a du caractère.
Rappelons juste qu'on
elle sauve le minimum syndical.
On prend ce but juste avant la pause. Ouais. D'ailleurs, une erreur défensive, je ne sais pas si là aussi vous vous rappelez, avec Pavard et Varane qui sont impliqués, parce que c'est un départ dans le dos de Benjamin Pavard et Varane qui n'est pas assez agressif. Du coup, l'attaquant Piola va marquer ce but à la 45e minute, donc juste avant la pause.
Pavard qui prend un taquet en début de match, notamment.
Ouais. Non, c'était contre l'Allemagne. Pavard qui prend un taquet à
qui reprend un en début de match contre l'Hongrie.
Et qui reprend un contre l'Hongrie.
Et Dembélé qui se blesse au genou à la fin de cette rencontre contre la Hongrie. Donc oui, on se fait bouger, oui, on se fait secouer, mais on réagit. C'est un moindre mal, j'ai envie de dire, ce match contre la Hongrie, mais après, en se disant, il va falloir confirmer contre le Portugal.
Et du coup, on égalise en seconde période, on a beaucoup d'occasions dans cette partie, c'est d'ailleurs Griezmann qui égalise après une balle repoussée, c'est Mbappé à l'époque qui fait tout le travail, un long dégagement, il parvient à prendre le dessus, il s'écarte côté droit dans la surface de réparation, il centre en retrait, et finalement c'est Griezmann.
Il n'a pas été très bon d'ailleurs, Mbappé, qui a loupé pas mal d'occasions, comme Benzema d'ailleurs, les deux ont eu des belles occasions, les deux en ont loupé.
Quel souvenir vous avez de ce match, captain et coach, ce Hongrie-France ou France-Hongrie?
Bon, essentiellement la chaleur, essentiellement la chaleur et surtout les errements. Alors, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, pas de but contre l'Allemagne et là, une grossière erreur qui nous met en difficulté juste avant le repos, c'est bien ça, juste avant la mi-temps.
Oui, c'est ça. Parfait. Et voilà. Juste un petit point compo, le seul changement au départ dans l'équipe de France, c'est Lucadine qui remplace Lucas Hernandez qui était touché musculairement, mais on est resté sur ce schéma de...
Pas tout à fait, parce que ça bouge un peu avec Griezmann qui est derrière Benzema.
Ah bah, au niveau des noms, c'était pareil.
Là, on a un Kylian Mbappé qui est un peu écarté. Okay.
Et on avait bien le trio, et au milieu de terrain, Rabiot, Kanté, Pogba, Jeannot, c'était bien ça.
Oui, on a toujours ce trio-là, mais ils ne sont pas dans le même positionnement que contre l'Allemagne.
Jeannot, Rabiot, il est toujours côté gauche.
Toujours
côté
gauche.
Non, il est côté gauche,
et Pogba à droite.
Oui, sur ce match-là, il est côté gauche.
Mais le match précédent aussi, j'ai failli reprendre.
Exactement. D'accord. C'est le Matuidi de l'ère moderne.
Oui, de 2021, quoi.
Coach, je me trompe ou pas?
Non, complètement.
Et contre le Portugal, on sort le Sissoko de l'ère moderne avec Tolisso à droite.
Ouais, le Matuidi, s'il est à gauche, et le Sissoko, s'il est à droite.
Tu te rappelles de ce match, toi, France-Hongrie, coach Corbis?
Ah ben oui, je m'en rappelle des commentaires aussi. Donc, bon, allez, contre une équipe de Hongrie qui est pour moi moyenne, ben, on a réussi à être combatif Et on a réussi à accrocher le match nul, donc c'était pas pour moi quand même un exploit extraordinaire.
Et moi, je pense que c'est là que l'équipe de France perd l'Euro. Et quand on écoute le sélectionneur,
sur ce match-là,
il est pas loin de le penser aussi parce que non, la chaleur, pas sur le contenu, mais sur la chaleur, les joueurs ont laissé énormément d'énergie sur ce match-là.
La fatigue des organismes.
Ils ont eu énormément de mal à s'en remettre.
Excusez-moi d'anticiper, Loïc, mais c'est pas sur ce match-là. C'est le match d'après, ou là, le match d'après.
Et ben voilà.
Là, on se fait pas bouger. Là, on se fait dominer.
Et on va y venir. Effectivement, je rappelle une nouvelle fois le contexte.
Toujours à Budapest.
Voilà, nous sommes à l'Euro 2020. On vient de passer les deux matchs de poule pour l'équipe de France. Il y a cette victoire contre l'Allemagne, 1-0. Il y a ce match nul, 1-0 à 15h en plein cagnard contre la Hongrie. Donc, avant la dernière journée, la France a 4 points. Le Portugal et l'Allemagne ont 3 points. La Hongrie a 1 point. Tout simplement parce que l'Allemagne a réagi et a battu le Portugal. 4-2. Donc, on est en position favorable pour terminer premier du groupe avant ce dernier match contre le Portugal. Mais on n'est pas encore qualifié. Donc, ce match a de l'importance. On le rappelle. Ça se déroule le 23 juin à Budapest. Et c'est une histoire de doublé pour deux anciens coéquipiers.
Cristiano Ronaldo, les mains sur les hanches, la course d'élan, la frappe de Cristiano Ronaldo, le contre-pied parfait, 1-0 pour le Portugal. Karim Benzema face à Rui Patricio pour répondre à Cristiano Ronaldo dans les dernières minutes. La course d'élan de Benzema, et le but, et c'est au fond, et c'est plein axe, et c'est très fort, et Rui Patricio n'a plus rien faire. But accordé.
Ah bah oui,
Cristiano Ronaldo au même endroit. Ça fait deux partout.
Trois jours à 20.
Deux partout entre le Portugal et la France.
Eh oui, coach Corbis qui pestait contre Hugo Lloris, qui était parti trois jours avant sur le deuxième pénalty de Cristiano Ronaldo. Avant qu'on revienne sur nos souvenirs de ce Portugal-France, je vous rappelle une nouvelle fois la compo, parce que là, il y avait eu des changements. Avec Hugo Lloris dans les buts, avec Jules Koundé côté droit, qui avait remplacé Benjamin Pavard, qui était en difficulté, Varane Kimpembe toujours en charnière, le retour de Lucas à gauche. Et là, 5 milieux de terrain, si on peut dire, avec Pogba et Kanté à la récupération, Griezmann en position numéro 10, Mbappé plutôt côté gauche, Tolisso côté droit, tu le disais, Jeannot, le Sissoko, et Karim Benzema en pointe, qui avait signé son vrai retour en équipe de France avec ce doublé. Mmh. Et d'ailleurs, je t'entendais, Jeannot, commenter effectivement ce but qui avait été vérifié par la VAR, le deuxième but de Benzema, parce que les trois avaient été impliqués, Mbappé, Griezmann et Benzema. C'était la première fois.
C'est la première fois que les trois sont impliqués. Et on peut rajouter qu'on en parlait tout à l'heure, 26 joueurs avaient été retenus et que dont 3 finissaient en tribune. Et quand tu vois Koundé titulaire dans le couloir droit, ouais, tu te mets à la place de Dubois, qui est devenu titulaire incontestable en tribune.
Il avait souffert, Jules Koundé. Vous vous souvenez de ce match, les gars?
Je me souviens surtout du fiasco Koundé-Tolisso.
Oui, c'est vrai que là...
On avait joué à 9,5, quoi. Pas à 10, mais à eux deux, ils représentaient un demi-joueur. D'abord, les deux ne jouaient pas dans leur rôle,
ouais,
ni l'un ni l'autre, et ça avait été un échec total tout au long du match,
Roland,
où les Portugais nous avaient dominés sur le plan technique, mais de façon assez incroyable.
Là, c'est du bricolage.
Oui, mais je rappelle quand même le besoin que nous avions pour ce match-là, c'était de gagner. Et parce qu'on n'envisageait pas que l'Allemagne puisse se faire accrocher par la Hongrie après le match que nous venions de voir des Allemands contre le Portugal.
Ce qui fut le cas.
Donc nous avons une invention que j'aurais bien aimé qu'on puisse poser la question à Didier Deschamps. Que quand on est sélectionneur de l'effectif de l'équipe de France et qu'on met un arrière central côté droit, arrière droit, et un Tolisso numéro 6 devant, qu'est-ce qui se passe après quand on s'aperçoit que ça a pas que ça a pas marché? Et je rappelle aussi que l'équipe de France, pour terminer première, il fallait justement qu'elle batte le Portugal. Mais notre malchance entre guillemets continue. Évidemment que je suis ironique. Nous nous faisons accrocher par le Portugal et nous apprenons que la Hongrie a accroché l'Allemagne. C'est-à-dire qu'on termine premier, parce que je rappelle quand même, et je continue dans notre malchance, que si nous ne terminons pas premier, nous prenons l'Italie ou l'Espagne.
Exactement.
Alors qu'en terminant premier, nous prenons la Suisse.
La Suisse qui est troisième de boule
de
groupe A.
Mais qui va penser qu'en prenant la Suisse, on ne peut pas sauter de joie d'avoir évité l'Italie et l'Espagne.
Jeannot, avant que tu interviennes, l'homme qui sait tout, Loïc Tanzi, lève le doigt depuis tout à l'heure, parce qu'il voulait absolument me parler d'infos exclusives.
Ouais, enfin, de l'entre-deux-matchs, entre ce que la Hongrie et le Portugal.
Ouais.
Donc, on prend un coup de chaleur contre la Hongrie. Difficile. Normalement, après la Hongrie, On est censé partir en banlieue de Budapest, dans un petit camp de base, où on a un terrain, où on a des espaces verts, où normalement les joueurs peuvent s'aérer. Pour la première
tu
fois.
Tu parles de l'équipe de France, là, Loïc.
Oui,
de...
oui, pas les journalistes.
Oui, on parle des joueurs de l'équipe de France.
Quitter le centre de Budapest.
Quitter leur hôtel de Budapest.
D'un hôtel qui est ouvert, puisque d'autres personnes.
Toi, t'es resté dans ta bulle, Loïc.
Moi, je suis resté dans ma bulle. Je ne sortais pas de mon hôtel, mais comme les joueurs de l'équipe de France. Donc, oui, ils sont censés partir là-bas. Finalement, ça ne se fait pas parce que les terrains ont des champignons, le terrain d'entraînement, normalement, de l'équipe de France. Donc, les joueurs restent à Budapest, dans leur hôtel, en plein centre de Budapest, sans pouvoir sortir. À ce moment-là, le stade de l'équipe de France se dit quoi ? Se dit, OK, on a des joueurs qui commencent quand même à montrer des signes un peu de difficulté face à la bulle sanitaire, le fait de ne pas pouvoir sortir, de voir personne, de rester entre eux. On rappelle, pendant la Coupe du Monde 2018, les joueurs ont pu sortir. Ils ont eu des soirées libres où ils ont pu partir à Moscou, aller boire un petit coup tous ensemble, aller parfois même en boîte de nuit tous ensemble. Là, ils ont pas pu, il n'y a pas ces espaces de liberté, de voir la famille aussi par moment. Donc le staff de l'équipe de France se dit, on va essayer d'organiser un resto, de privatiser un resto et de faire venir tous les joueurs de l'équipe de France. Là aussi, impossible en termes d'organisation de faire ça. Et c'est là où nous, on commence à avoir un peu des signes, de se dire, OK, les joueurs commencent à en avoir marre. C'est trop long pour les joueurs de ne pas pouvoir sortir comme ça. Et c'est là où on commence à avoir des retours sur des difficultés après la chaleur, des difficultés à vivre ensemble quotidiennement sans avoir d'espace d'aération.
Captain, je t'entendais réagir.
Non, mais le problème, c'est que quand il y a des espaces d'aération, et je sais pas si tu appelles ça comme ça, des bouches d'air, hein, voilà. Moi, j'en ai connu des espaces d'aération, et Jeannot les a connus sur les chemins qui nous menaient en 2002 du nord de la France en Afrique du Sud. Il y a eu une bouche d'aération du côté de Sousse, en Tunisie. C'était pas une bouche d'aération, c'était un gouffre. C'était une abîme, ils y sont tous tombés dedans.
En 2010.
2010, j'ai dit.
T'as dit 2002.
En 2010, oui, j'ai dit 2010. 2010, il y avait femme et enfant.
Oula.
Et compagne et maîtresse.
Ne refaisons pas cette histoire-là.
Ah ben oui, mais non, mais.
Ne nous regarde pas.
Non, mais je veux dire par là, Loïc, qu'il n'y a pas de vérité. Là-bas, on a plus gagné un match après. Plus
non, mais
un match.
Ce que veut dire Loïc.
Même à la Réunion, on a été battu par la Chine.
Jean-Michel, ce qui a été la force de l'équipe de France en 2018, ça a été ces petits détails. En 2021, tu étais dans un contexte particulier avec cette bulle sanitaire qui a été pesante pour tout le monde, pour toutes les équipes. Mais
tous,
peut-être un
pour
peu
tout le
plus.
Monde. Il y en a qui sont sortis.
Alors, pour l'équipe de France.
Il y en a qui l'ont sorti.
Il y en a qui l'ont cassé un peu.
Pourquoi et comment ça peut être autorisé? Mais des équipes. Moi, je me souviens, par moment, on se baladait à Bucarest, on se baladait l'après-midi du match face à la Suisse. Les Suisses étaient en balade dans la ville, alors que l'équipe de France, c'est interdiction de sortir de l'hôtel.
Est-ce qu'on peut l'analyser aussi, Loïc, en se disant que la vie de groupe a été moins bien gérée, le groupe vivait moins bien qu'en 2018.
Ah, le groupe vivait moins bien qu'en 2018. Il y a eu des embrouilles en 2018. Il y a eu des choses qu'on ne sait pas en 2018 qui se sont passées et ça a été couvert parce que l'équipe de France a gagné.
Le contexte,
c'est ça qui couvre le
contexte était moins agréable aussi.
Ah bah bien sûr.
Il y a qu'à voir les embrouilles qu'il y a eu avec notamment Florence Ardoin, directrice générale de la fédération, qui était responsable de la délégation, avec Bachir, l'intendant, avec Guy Stéphane. Enfin, il y a eu des histoires autour de l'équipe de France qui ont, pour la plupart, été presque inventées et parce qu'il y avait justement une très mauvaise ambiance. Quoi. Il fallait que Didier Deschamps reprenne la main. Il l'a repris après l'Euro, mais il fallait que Didier Deschamps reprenne la main. Quoi.
Ouais. Juste aussi le contexte de cet Euro avec plusieurs pays, même s'il y en a beaucoup qui se sont désistés. Et puis, c'est vrai que dans ces cas-là, quand tu es anglais et que tu joues à l'Angleterre, plus facile.
Oui.
Ou quand tu es italien et que tu joues en Italie, ce qui s'est passé, hein, les Anglais ont fait, je ne sais plus, 5 ou 6 matchs chez eux, non?
La totalité des matchs. Ils ont tout joué chez eux.
Ils ont mis un match à Rome, je crois. Un à l'extérieur à Rome pour le quart de finale.
Ce qui passait pour un euro œcuménique est devenu un euro quand même très spécial.
C'est vrai, exactement.
Et une soirée très spéciale, moi je veux qu'on y revienne 2 secondes là-dessus, mais le fameux match entre le Portugal et la France. On est à Budapest, dans encore une fois une ambiance extraordinaire, mais pas tant que ça. Parce qu'en fait, les Hongrois qui sont dans le stade, ils sont en train de s'occuper de ce qui se passe à Munich.
Ils sont pas du tout
concentrés sur le match entre la France et le Portugal. Quand il y a l'ouverture du score de Szalai et quand il y a ensuite l'égalisation de Schäfer, t'as l'impression que ça se passe devant toi, sous tes yeux. Ils n'avaient strictement rien à faire du match entre le Portugal et la France. Ça reste un moment très particulier.
C'est un moment un peu magique, c'est drôle en fait. Mais parce que les gens sont
totalement drôles
sur le match qu'ils ont
devant eux. Et c'est vrai que même parfois c'était perturbant parce que tu commentais le match et t'entendais la clameur des Hongrois qui se rendaient compte que leur équipe était en train de faire un exploit.
T'as dû manquer des choses.
Tu te dis là, t'es à Munich ou t'es à Budapest là ?
En résumé, on est bien d'accord. Les Allemands ne battent pas la Hongrie et terminons premier.
Exactement, factuellement, on termine en tête devant l'Allemagne, accroché par la Hongrie de partout.
Ouais, coach.
Mais ça va se gâter en huitième de finale. On prend donc la Suisse qui termine troisième du groupe A derrière l'Italie et le Pays de Galles. On vous en parle dans un instant.
16h, 18h, RMC, spéciale équipe de France.
Benoît Boutron.
Avec Captain Larquet, avec Coach Corbis, avec Jeannot Rességui, avec Loïc Tanzi, encore une fois, on vous souhaite un joyeux Noël en ce 25
joyeux
décembre.
Noël à tous.
Évidemment, faites attention si vous êtes sur la route.
Prenez soin de vous.
Jeannot, t'as été gâté ?
Ouais, toujours, comme d'habitude.
Ouais. Qu'est-ce qu'on offre à Jeannot à Noël ? Compliqué, hein ?
De la bouffe.
Des pastilles pour la gorge ?
De la bouffe tout de suite.
Bah pourquoi ?
Mais pourquoi de la bouffe ?
Bah parce que c'est sympa de la bouffe.
Moi, tu l'as bouffé gâté.
Dans le sud-ouest, en plus, on mange bien et tout.
On mange tout le temps bien.
Vous voyez que je te pose une autre question. Qui ferait le meilleur Père Noël entre Jeannot, Coach Corbis ou Jean-Michel ?
Ah, coach, quand même, il ferait un bon Père Noël. Avec l'accent et tout, ça serait sympa.
Et moi, je suis bloqué par ma taille.
Belle barbe.
Le Père Noël de 1m63, ça marche pas, ça, c'est pas possible.
Pas roulant,
belle barbe blanche.
Ouais, peut-être.
Bon, vous le savez, on revient sur l'année 2021 de l'équipe de France. Dans 30 minutes, on va se projeter sur l'année qui attend nos Bleus et cette Coupe du Monde au Qatar. Mais pour avancer, il est important d'analyser nos échecs. Et on va donc revenir sur cette soirée du lundi 28 juin à Bucarest. La France, championne du monde en titre, première de son groupe, affronte la Suisse qui a terminé troisième du groupe A derrière l'Italie et le Pays de Galles.
Face à Pavard, Zuber qui va centrer. Le but de Seferovic de la tête sur le centre de Zuber.
Griezmann, on est mieux.
Dans l'axe avec Mbappé. Mbappé pour peut-être Benzema, le contrôle approximatif. Karim Benzema pour l'égalisation. Griezmann. Ça revient sur le courant de Pogba. Magnifique. Frappe enroulée. Pleine lucarne de la part de Paul Pogba. Babou qui récupère le ballon sur le côté droit. Le centre fort devant le but. La réduction de l'écart. Le but pour la Suisse. Attention avec le décalage. Avec la frappe derrière. Et le but. Gavranovic, cette fois-ci, il est pas en jeu. Et la Suisse qui va arracher dans les dernières secondes du temps réglementaire le match nul à 3 partout. Kylian Mbappé, il est sifflé du stade de Bucarest. C'est pas très malin. Kylian Mbappé face à Sommer. Kylian Mbappé, arrêt de Sommer. C'est un cauchemar pour Mbappé. C'est un cauchemar pour l'équipe de France qui est éliminée de l'Euro 2020 en 8e de finale.
Une défaite au tir au but, 5-4. C'est Mbappé donc qui a manqué le 5e tir. La France a été menée à la 15e minute. But de Seferovic qui a devancé l'Anglais. C'était le choix d'ailleurs de ce match. On va pouvoir en reparler. Dès le début de la deuxième, un pénalty arrêté par Lloris. Il faut le rappeler quand même. On aurait pu être mené 2-0 dans cette partie. Ensuite, évidemment, il y a ce but sublime de Benzema avec un contrôle incroyable.
Et une occasion aussi qui aurait pu faire 2-0.
Oui, pour les Suisses, effectivement. Ensuite, on mène 3-1 encore avec un but fantastique de Paul Pogba à la 81e. On entend évidemment Loïc Tanzi crier comme un goré puisqu'il pense déjà au quart de finale. Eh bien non.
À Saint-Pétersbourg en plus.
Eh ouais, voilà. Eh ben écoute, non. 3-3 à la 90e. On rappelle également que dans le temps additionnel, il y a cette frappe sur la barre de Kingsley Coman.
Oui,
ça aurait pu s'arrêter là.
N'oublions pas la perte de balle de Pogba qui amène ce deuxième but des Suisses et qui amène l'embrouille dans les tribunes aussi des familles. C'est parce qu'il y a eu ça aussi.
Même si lui-même s'est embrouillé avec des
Il est important de rappeler le contexte. Une compo bricolage une nouvelle fois de la part de Didier Deschamps, mon petit Loïc Tanzi. Ouais. Je vais la rappeler rapidement. Lloris dans les buts, Varane, l'Anglais, Kimpembe, l'Anglais qui n'avait pas joué de l'Euro.
La première des trois compos, tu veux dire?
Oui, voilà, c'est ça. Il y a trois compos dans le match. Mais celle de départ, c'était Varane, l'Anglais, Kimpembe en défense. Rabiot, piston gauche. Pavard, piston droit.
Ding et Hernandez sont blessés.
Exactement. Kanté et Pogba à la récupération. Et puis Griezmann, Mbappé et Benzema, c'est ce que j'allais te dire, Loïc. L'Anglais est lancé au feu parce qu'effectivement, on réajuste tout ça. Et Rabiot est piston gauche parce qu'on n'a plus l'arrière gauche disponible.
Ouais, il commence à y penser deux jours avant le match. Premier entraînement à Bucarest. Nous, avant l'entraînement, en fin d'après-midi. Et en début d'après-midi, on commence à avoir l'info de nous dire, OK, attention, il y a entraînement à huis clos, mais il peut se passer un truc pendant l'entraînement à huis clos, essayez de venir voir quand même. Et on se rend compte qu'il a travaillé ce 3-5-2 pour la première fois et qu'il va donc le mettre en place face à la Suisse, toujours dans cette volonté de mettre Griezmann, Benzema et Mbappé dans l'axe. Sauf que là, pour le coup, il le fait complètement au détriment de l'équipe de l'équipe et alors, du reste de l'équipe.
Justement, on va écouter le sélectionneur Didier Deschamps qui était l'invité au début du mois de décembre de Jérôme Rotten dans Rotten sans flamme et qui revient sur cet échec à l'Euro. Écoutez son analyse.
Non, elle n'est pas ratée. On n'a pas atteint un objectif qui était important. Voilà, on a été éliminé prématurément de cet Euro. Je reste factuel, même si ça a mis du temps à digérer, mais on a eu 10 minutes où, voilà, d'égarement, comme je le dis et je le redis, et le haut niveau ne pardonne pas.
Roland, je te vois encore.
Non, mais disons qu'on peut ne pas être d'accord, ce qui est mon cas, et tu sais très bien que quand je suis pas d'accord avec quelqu'un, premièrement, j'argumente, et deuxièmement, j'ai pas la prétention d'avoir raison, mais j'argumente. Si, justement, on pense que c'est dans les 10 dernières minutes, parce qu'on est passé de 3-1 à 3-3, que c'est là qu'on a été éliminé. Eh ben, moi, je reviens bien avant. Je vais pas revenir à la sélection de Benzema, comme on a fait en début d'émission. Mais je reviens à la première mi-temps. Passer à 3 arrières centraux en 24 heures, pourquoi pas? Mais les 3 arrières centraux, j'ai la prétention de connaître cette organisation, c'est totalement différent. L'arrière central côté droit, l'arrière central axial et l'arrière central côté gauche. Quand tu mets l'anglais au milieu de Varane et de Kimpembe, tu sais quand même que tu vas changer beaucoup d'habitudes et il y a quand même de grandes chances que c'est du mal à marcher pendant 93 minutes, ce manque d'habitude. Et donc, pour moi, cette équipe de France, elle est habituée quand même depuis des années, que ce soit dans les tirages au sort, que ce soit dans les scénarios du match, d'avoir Mademoiselle Chance qui est quand même de son côté. Et là, on va entendre que quand on est 3-1, et là, je suis d'accord avec une chose, quand on est 3-1, et qu'on est joueur de l'équipe de France, ou sélectionneur, ou adjoint sur le banc, et qu'on passe de 1-0 à 3-1, pas une seconde, on peut penser qu'on va faire 3-3, malgré que l'après-midi, il y a Croatie-Espagne qui a ce scénario. Et ça ne te sert même pas d'exemple. Mais ça ne te sert pas d'exemple à toi. Toi, l'équipe de France, Mademoiselle, la copine de Chance, à côté, on ne va pas être éliminé quand on mène 3-1, quand même. Pas nous.
Jeannot l'a dit, on a changé 3 fois de système dans cette partie. L'anglais qui a pris l'eau pendant une mi-temps, le pauvre,
oui, mais l'anglais
a été sorti dès la pause.
Qui avait joué à ce poste-là contre la Croatie en Ligue des Nations. Enfin, je veux dire, il n'a pas inventé non plus des joueurs comme ça. Il ne le fait jamais, ça, Deschamps. Il décide de mettre l'anglais parce qu'il y a des circonstances avec des joueurs blessés.
Mais là, il est directement impliqué sur le
jeu. Il est directement impliqué. Et en plus, l'anglais, qui n'est pas toujours titulaire avec Barcelone. Hein.
Jeannot, j'ai la prétention de te dire que les 3 arrières centraux de l'équipe de France, l'arrière central côté droit, qui n'est surtout pas un piston, il s'appelle Pavard. L'arrière central axial, c'est Varane, le libéro de l'époque. Et le gaucher, arrière central côté gauche, il s'appelle Kimpembe. N'inventons rien. Eh bien, bientôt, on va avoir un gardien de but, couloir droit.
Mais de toute façon, il n'a jamais aligné 2 défenses consécutives à 3. Avec les mêmes joueurs, donc laissez tomber là-dessus. Il y a toujours eu des différences.
Captain.
Mais que ce soit de la 81e ou à la 90e où l'équipe de France prend 2 buts, en 9 minutes, elle prend. Enfin, je dis 9. En 10 minutes, elle prend 2 buts. Mais le problème de l'équipe de France, c'est que tout à l'heure, quand on a commencé l'émission, on a dit bravo contre l'Allemagne, on a retrouvé la solidité. Mais cette équipe de France, défensivement, n'est pas solide. Elle n'est pas solide, notamment parce que vous venez de rappeler quand même qu'avec 2 défenseurs centraux gauchers, dont l'un est dans l'axe et l'autre côté gauche, et Varane côté droit. Varane, il est fait pour être défenseur central côté droit, comme Jeannot, danseur à l'opéra. C'est pareil.
Ah, bel exemple. Jeannot,
Bel exemple.
Non, mais si.
Mais oui.
Honnêtement, on voit Varane dans l'axe. On voit Varane dans l'axe et un défenseur central à droite qui peut s'appeler Pavard, vous en avez dit, qui peut s'appeler Koundé également.
Absolument. Hein,
Bon, voilà. Donc, et c'est cette équipe de France, mais c'est là où je regrette tout, mais je pense que ça se joue à des détails, mais qui n'en sont pas des détails. On a l'habitude de parler de détails. Mais la façon dont Pogba se fait choper le ballon sur le deuxième but, messieurs.
Mais oui.
Il est.
Mais c'est là que tout se passe.
C'est le résumé, c'est le résumé.
Et juste avant son attitude pour fêter le troisième but, rappelle-toi quand il va vanner les supporters suisses. Voilà, c'est un tout. C'est un tout.
On peut parler de tactique, de choix. Messieurs. Et je suis d'accord avec vous. Ça a son importance.
Messieurs.
Mais ce ballon-là, si tu es un joueur de football normal, respectueux de l'adversaire,
il ne doit jamais le perdre.
Jamais piqué. Capitaine. Jamais.
On a Guillaume qui, en ce jour de Noël, a décidé de nous appeler pour participer à l'émission avec nous. Salut Guillaume.
Salut tout le monde, joyeux Noël. Bonjour.
Joyeux Noël à toi. Noël. Tu es l'auditeur parfait puisque tu es un auditeur franco-suisse. Donc, quel est ton débrief à froid de ce match alors?
Je dirais qu'aujourd'hui, je vais en profiter, je serai suisseau-français, ça sera mieux.
Ouais, c'est ça, t'as raison.
moi, le débrief de ce match, il est très clair, c'est-à-dire que je vous trouve, même si vous avez été factuel, un peu complaisant avec l'équipe de France sur l'ensemble de l'Euro. Contre l'Allemagne, contre l'Allemagne, on a joué 5 minutes, plus 2 contre, ou sinon on était dominé 90 minutes. Contre la Hongrie, on a été en dessous de tout. Contre le Portugal, on joue 5 minutes en fin, 5 minutes en début. Et contre la Suisse, quand j'entends Didier Deschamps, que je comprends dans le positivisme, parce qu'il peut pas défoncer ses joueurs, c'est tout à fait normal, quand il dit on perd sur 10 minutes. Non, tu perds sur 120 minutes, sur 110, c'est-à-dire que tu as joué 10 minutes. C'est-à-dire que les 3 buts de l'équipe de France, ils sont sur 15 minutes. La France se fait malmener par l'équipe de Suisse, qui n'est pas une équipe, on va dire, qui dame, c'est-à-dire que la Suisse, depuis maintenant 15 ans, elle est entre la 6e et la 13e place mondiale. Donc les commentaires de tous les commentateurs pré-match et avant le match où ils disent « Ah oui, si la France se qualifiera, ou sinon c'est parce qu'ils ne sont pas montés dans l'ascenseur. Oh, de toute façon, il n'y a personne en Suisse que je
comprends. » Descendu de l'ascenseur. Descendu.
Oui, pardon. Je l'ai entendu sur d'autres antennes, c'est pour ça que je ne m'ai pas
dit. Chez nous, c'est pas
si t'es pas montré, t'es pas au
Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, le respect et l'orgueil justement dont tu as fait preuve, Pogba, parce que je crois que Pogba, il est encore en train de danser à Bucarest, là. À un moment donné, il faut se remettre. Et d'ailleurs, quand il tombe, c'est sur le troisième but, quand il tombe par terre sur les fesses, quand Xhaka, et c'est Fasnacht qui récupère deux fois le ballon, quand Xhaka récupère le ballon, ben, il y a Pogba qui regarde l'arbitre qui dit, bah attends, je suis quand même Pogba, mais tu peux pas siffler la faute ou quoi?
Exactement.
Et derrière, il y a Kimpembe qui, croyant qu'il va récupérer le ballon en faisant un tacle, et ben, se balance par terre, alors que Gavranovic, qui est un joueur que moi j'apprécie énormément parce que, bah, il est suisse, mais il joue au Dynamo Zagreb et ensuite il a été transféré ailleurs. Je veux dire, c'est pas le meilleur attaquant de l'histoire de l'humanité, si vous voyez ce que je veux dire.
Ah non.
Il fait un crochet de base, et Kimpembe, qui, malheureusement pour Kimpembe, et ben, il se fait prendre là-dessus. Et donc, c'est un problème de remise en question. Et justement, le seul qui a pu faire cette remise en question, c'est, je pense, Deschamps. Parce que justement, Deschamps, s'il change sa tactique en 8e, c'est pas parce qu'il a seulement des blessés. C'est parce qu'aussi, il sait très bien que lui, en face, la Suisse, c'est pas une équipe de rigolos. Et justement, il fait ça pour essayer de trouver une solution qu'il ne trouve pas. Mais voilà.
Guillaume. Enfin, le groupe de la mort, en 8e de finale, ils étaient tous les 3.
Tout le monde a sauté, effectivement, puisqu'on rappelle que le Portugal a sauté contre la Belgique, et voilà. Et l'Allemagne a sauté contre l'Angleterre, 2-0. Rappelons que les Suisses, ensuite, ont sauté en quart de finale, au tir au but, contre l'Espagne, qui a fait demi, ensuite, contre l'Italie. Merci Guillaume d'avoir été avec nous.
Merci.
Au 32-16, dans un instant, on en termine avec cette Euro, on en termine avec cette année 2021.
Avec une victoire en Ligue des Nations. Positive.
Exactement. Et vous me donnerez votre note globale sur l'année des Bleus. Voilà, j'attends vos carnets de notes.
Ah,
voilà, chacun.
Bien. Tout de suite.
Jusqu'à 18h, RMC, spéciale équipe de France.
Benoît Boutron.
Avec coach Courbis, Captain Larquet, Jeannot Rességui, Loïc Tanzi. Joyeux Noël à tous. Si vous nous écoutez en voiture, faites attention, évidemment. Dans un quart d'heure, on va se projeter sur la Coupe du Monde au Qatar. Le doublé vous semble-t-il réalisable pour cette équipe de France? Est-ce que le trio offensif doit rester intouchable? Vous venez participer avec nous via le hashtag RMC Live. Mais on termine le bilan de l'année 2021. Après un été compliqué, on a parlé de ça évidemment il y a quelques minutes, et cette élimination en 8e de finale de l'Euro, les Bleus ont terminé sur une note positive, Jeannot Rességuier.
Oui, la Ligue des Nations.
Avec cette Ligue des Nations.
C'est une coupe qui a été mise en place, un trophée qui a été mis en place par l'UEFA pour garder l'esprit compétition et permettre à certaines nations qui ont du mal à trouver des matchs amicaux quand il n'y a pas des éliminatoires pour le championnat d'Europe, je parle que de la zone UEFA, championnat d'Europe ou la Coupe du Monde, et de ce fait dire il y aura une compétition qui va être un petit peu alambiquée, mais qui permettra aussi à certaines nations d'aller chercher une qualification via un barrage et donc apporter un petit plus d'un point de vue sportif et d'apporter quand même malgré tout aussi un petit plus au niveau financier.
Jeannot, on rappelle effectivement notre parcours. Demi-finale, on s'impose contre la Belgique dans un match complètement dingue d'ailleurs.
Une renversant.
Victoire, 3 buts à 2.
Renversant, 3-2. Ouais, avec des buts de Benzema, de Mbappé sur...
Les Bleus étaient menés 2-0 hein, quand même.
Et de Théo Hernandez. Toujours, ouais. Ouais, en fait, toujours dans la réaction.
Un mi-temps horrible.
Toujours dans la réaction.
Et on rappelle la finale de la Ligue des Nations. Donc tout ça s'est disputé en Italie hein, sur une semaine. Et on a battu l'Espagne en finale à San Siro 2 buts à 1.
Là aussi, mené au score.
Après avoir été mené.
Exactement. Après avoir été mené grâce à deux hommes forts quand même ce jour-là qui ont été très bons.
Benzema et Kylian Mbappé qui étaient buteurs et qui ont porté presque à eux seuls cette équipe de France vers la victoire. Et quelque part, on est obligé de penser aussi à ce qu'avait dit Karim Benzema quand il avait été rappelé par Didier Deschamps. Son rêve, c'était de gagner un trophée avec l'équipe de France. Il a gagné ce trophée avec l'équipe de France et notamment donc avec cette victoire en Ligue des Nations.
Roland, Jean-Michel, pour vous, quelle est la valeur de ce titre, la Ligue des Nations?
Mais pour une sélection, c'est comme pour une équipe de club, la Champions League, conférence, là, voilà.
Ah, quand même.
Alors, la Coupe des Trophées.
La quatrième, là, ouais.
L'Europa League, conférence. Okay.
D'accord. Captain, qu'est-ce que t'en penses?
Oui.
Ah oui, c'est une nouvelle,
la valeur de la Ligue des Nations.
Compétition. Ah, vous plaisantez quand même.
Oui, enfin, le trophée par lui-même ne me semble pas exceptionnel. Bon, d'abord, peut-être parce que c'est le premier, et je ne sais pas s'il y aura une suite.
Si, il y a une suite, puisque.
Oui, non, mais je veux dire, pendant de nombreuses années. Moi, ce que je retiens, c'est surtout d'avoir battu deux nations majeures. Voilà, deux nations majeures avec la manière. Voilà, et on attendait une réaction, elle est arrivée.
C'est ce qui a rendu cette fin d'année positive, avec également, même si c'était plus attendu, la qualification pour la Coupe du Monde au Qatar. On n'était pas qualifié en tant que tenant du titre, mais on a fait le boulot en battant notamment le Kazakhstan au Parc des Princes. Ça, on peut passer rapidement là-dessus. Messieurs, pour terminer, il nous reste une minute. Je veux que chacun, vous me donniez votre note global sur l'année 2021 de l'équipe de France. Je vous rappelle juste factuellement, comme dirait Didier Deschamps, les stats. 16 matchs, 10 victoires, 6 nuls, parce que l'élimination contre la Suisse est considérée comme un match nul. Donc la France termine invaincue avec au moins 2 buts par match sur chaque rencontre. Donc c'est une moyenne, évidemment. Quelle note vous donnez au bleu, capitaine?
5 sur 10.
La moyenne. Coach?
5,5.
Je suis sûr que je vais être le plus élevé.
5,5. Loïc Tanzi?
5 sur 10.
5 sur 10 aussi. Ouais. Et toi, Jeannot?
Je donne 6 parce que il y a l'objectif de se qualifier pour la Coupe du Monde. Parce qu'il y a.
Oh, terrible, Jeannot, terrible.
Je m'en fous. C'est un objectif.
Ce qui est normal. Oui, mais ce qui paraît logique quand même. Ouais. Dans le groupe où on est, ce qui paraît quand même logique.
Le Kazakhstan, au Parc des Princes.
C'est pas là. Il y a rien de fou.
Là, j'y avais pas pensé.
Il y a rien de fou.
La qualif pour la Coupe du Monde, je termine. La Ligue des Nations, parce que c'est un trophée et on doit le respecter. Et que malgré tout. L'équipe de France a réalisé une année 2021 correcte, malgré l'élimination en huitième de finale. Donc, je donne un peu plus que la moyenne.
Okay. En gros, tu prends 0 sur l'euro et tu prends 5 pour la Ligue des Nations. Voilà.
Ah, là, c'est
et 1 pour la qualif.
Moi, c'est simple. Hein, tu peux pas donner de points sur l'euro. L'euro, c'est un échec. Il n'y a pas, pas d'autre mot que ça.
5 pour la Ligue des Nations et 1 pour la qualif, okay. Puisqu'elle était facile. Elle était déjà signée d'avance, la qualif pour la Coupe.
Moi, la qualif, je la compte pas.
Moi, le petit demi que je mets, c'est compte tenu que dans cette Ligue des Nations, il y a deux adversaires qui sont deux bonnes équipes. Donc on a vu en plus de beaux matchs. Mais sinon, je rappelle quand même que le match nul dans notre époque de la victoire à 3 points, c'est une petite défaite.
Exactement, on remercie Loïc Tanzi, tiens, qui va nous quitter, qui a besoin de décuver un jour de Noël.
Avec plaisir, on m'attend pour le dessert, désolé.
Profite bien en famille, et nous on reste là avec Jeannot, avec Jean-Michel Larquet et avec Coach Courbis, on se projette.
On est sobre nous,
on
est
sobre. Voilà. Nous on fait du footing le matin et on ne boit pas l'alcool. Voilà, on est sérieux même pendant les fêtes.
Nous on ne parle pas de Bucarest, de Budapest.
Exactement.
De Saint-Pétersbourg, nous
on n'est pas tétanisé, on n'a pas
l'insolation. Si vous avez l'adresse, vous m'appelez, vous appelez Standard RMC, vous demandez.
Nous on maîtrise nos émotions, monsieur Tanzi.
Voilà, pas de problème.
Tout ce qui se passe à Budapest reste à Budapest.
Allez, à tout de suite. On se projette vers le Qatar en 2022. Est-ce que le doublé est réalisable? À tout de suite.
RMC, spéciale équipe de France.